Alors, comme j'ai dit tantôt, tournez dans Luc, l'Évangile de Luc au chapitre 17. Et les versets, c'est 11 à 19. Vous savez, quand on parle d'évangélisation, il y a bien des gens que les antennes se ferment, se baissent. Pourquoi? Parce qu'on a peur, souvent, de prêcher l'Évangile. On a peur de qu'est-ce que les gens vont dire. On n'aime pas ça, se faire dire non. Hein? T'es d'accord avec moi? On n'aime pas ça, se faire dire non. Et ce matin, c'est un message sur l'évangélisation, mais il y a aussi un côté reconnaissance. Le lépreux qui est retourné voir le Seigneur a été sauvé. Donc, dans un court mot de prière, remettons le temps de la prédication dans les mains de notre grand Dieu. Oui, Seigneur, on veut continuer dans la louange, continuer dans l'adoration. On veut que ce temps alloué à la prédication soit béni, qu'il puisse nous pénétrer, qu'il puisse nous faire comprendre ce que tu as voulu nous dire, Seigneur, à travers cette bonne parole. Donc, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs pour qu'on puisse entendre, comprendre et obéir à ta parole. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 14. On lit, « Dès qu'il les eut vus, il leur dit, c'est Jésus, hein, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et là, pendant qu'ils y allaient, il arrive que tous furent guéris. Alors, pendant que Jésus voyageait, hein, on sait qu'il n'y avait pas de métro dans ce temps-là, il n'y avait pas de service de transport. Jésus voyageait à pied, peut-être à d'autres chameaux, je ne sais pas, mais en tout cas, habituellement, c'était à pied, par la Samarie, par la Galilée. Et il arrive dans cette petite ville-là. Et sur les abords du village se trouvent 10 lépreux. Et on sait que c'était une maladie qui était vraiment épeurante dans ce temps-là, parce que tu ne pouvais pas toucher un lépreux, tu pouvais être proche, même on leur réservait les coins les plus abjects du territoire pour qu'ils puissent demeurer tous là. Ils ne pouvaient pas aller plus loin que certains endroits. Donc, ils trouvent 10 lépreux. Et ils se tenaient là au loin. Comme je vous dis, ils ne pouvaient pas approcher la ville. Ils étaient à quelques distances de lui, et au verset 12, on lit, « Comme il entrait dans le village, dans un village, c'est-à-dire, on nomme pas le village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, et ils élevèrent leur voix et dirent, hein, « Seigneur, Seigneur, ces lépreux-là étaient, on leur demandait, hein, par la loi de l'Ancien Testament, de rester éloigné des personnes en bonne santé, pour que les personnes en bonne santé, évidemment, ne soient pas contaminées par la maladie. On lit dans Lévitique, chapitre 13, versets 45 et 46, « Le lépreux criera, « Souillé, souillé, il devra demeurer seul, son habitation sera hors du camp. » Donc, vous comprenez un peu le contexte. Ceux qui ont vu des films chrétiens, évidemment, vous avez vu des fois, même pas chrétiens, je veux dire, là, des films historiques, que quand on parle de lépreux, eh bien, ils sont toujours à l'écart. Hein? Quel film avec Charles Astin qui... Benner, c'est ça. Donc, ces 10 lépreux-là, ces lépreux-là avaient entendu que Jésus faisait des miracles. Et de loin, ils ont crié à Jésus, « Maître, aie pitié de nous. » Ce qui est étonnant, par contre, ici, c'est que Jésus n'a pas guéri leur lèpre sur place. T'sais, il leur a pas étendu les mains, il leur a pas frotté les yeux, frotté le corps, whatever. Non, il les a pas guéris sur place. Et ce qu'il leur a dit, c'est d'aller se montrer aux prêtres dans le temple à Jérusalem. Et Jésus l'a fait pour deux raisons. Vous allez vous demander pourquoi il a fait ça. Parce que de cette façon-là, il accomplissait la loi de l'Ancien Testament qui dit dans Lévitique 14, versets 1 à 20, je ne lirai pas toutes, mais je vais juste dire l'essentiel, c'est que seuls les prêtres pouvaient déterminer si quelqu'un avec la lèpre avait été guéri. Donc, c'est pour ça que Jésus leur dit, allez, allez vous montrer. Et deuxièmement, la deuxième raison était d'être témoin, d'être un témoignage aux prêtres et à d'autres juifs de la puissance de guérison qu'ils possédaient. Non pas eux, mais que Dieu, que Jésus possédait. Et ça, c'est dans le Applied New Testament. OK, vous avez la référence là, qui, c'est le commentaire. Ces 10 lépreux-là, ils ont obéi à Christ. Et là, ils sont allés vers le temple de Jérusalem. Ce qui prouve qu'ils avaient une certaine quantité de foi. Ils n'ont pas regardé et dit, hey, « comment ça, je ne suis pas guéri, là? » Non, Jésus dit, « Allez, allez vous montrer. » Il fallait avoir un peu de foi, là. Donc, il y avait une certaine quantité de foi, parce que sans cette petite foi-là, ils ne seraient pas allés se montrer. Mais comme on le verra plus tard, là, dans le sermon, c'est pas la foi qui sauve qui les a fait retourner au prêtre, c'est ça, au sacrificateur. C'est pas la foi qui sauve qui les a fait. Ils ont obéi à Christ, et j'appelle ça extérieurement, pour avoir une guérison extérieure, pour être guéri de la lèpre. Regardez bien dans Luc 17, verset 14. Et il arriva qu'en s'en allant, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tous été guéris, rendus nets. C'est intéressant. Donc, la lèpre avait quitté leur corps pendant qu'ils s'en retournaient vers le sud de la Galilée, vers le temple de Jérusalem. Mais l'un des lépreux ici, il voit qu'il est guéri. Il s'aperçoit qu'il est guéri. Et là, il fait demi-tour. Il fait demi-tour et il s'en va rencontrer Jésus. Au verset 16, on dit, « À haute voix, il glorifiait Dieu et il tomba sur son visage, ses pieds pour lui rendre grâce. » Il est tombé aux pieds de Jésus. « Seigneur, je suis guéri! » Et là, Jésus lui dit, « Lève-toi. Va ton chemin. Continue ta vie. Parce que ta foi t'a guéri. » Il me semble que il y a plusieurs leçons à apprendre ici. Évidemment, on ne peut pas toutes les voir. Je veux juste voir trois petits points ce matin afin qu'on puisse sortir d'ici encouragé et comprendre un peu la gratitude que nous avons reçue, tous ceux qui sont sauvés. Mais est-ce qu'on a rendu grâce à Dieu? Et est-ce qu'on continue à permettre à d'autres d'entendre le message de la parole pour être sauvés? Le premier point que je veux voir avec vous, c'est la purification partielle. Les 10 lépreux ont été guéris. Vient de l'obéissance extérieure à Christ. Dieu bénit le bon et le méchant. Chacun de ces 10 hommes-là a été guéri de la maladie extérieure de la lèpre. Pourtant, ils n'ont pas tous été guéris intérieurement. Hein? Parce que lorsqu'ils sont allés voir Jésus, Jésus leur dit, tournez vers les prêtres, vous faire montrer. Puis là, ils s'aperçoivent qu'ils sont guéris. Mais il n'y en a rien qu'un. Il n'y en a rien qu'un qui a été touché intérieurement. Il avait déjà été partiellement guéri sur la route allant vers le temple, mais leur âme n'avait pas été encore guérie. Et Jésus a dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Mais il y en a un qui s'est aperçu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, je suis guéri. Mais il y a plus que ça. Il y a quelque chose dans mon cœur qui brûle. Il faut que je retourne voir celui qui me dit de m'en retourner. Les gens qui sont extérieurement obéissants à Christ sont purifiés de plusieurs de fléaux qui souvent préoccupent ceux qui ne sont pas entièrement obéissants. Ceux qui viennent, par contre, à l'Église et se conforment extérieurement, pas intérieurement, mais juste sont fidèles à l'Église, aux règles de base du christianisme, découvrent par eux-mêmes que leur vie devient plus en règle, plus en règle, et que leurs habitudes, à cause de l'étude de la parole, bien ça, ça produit de meilleurs résultats dans leur vie. Et ils sont juste guéris extérieurement. Leurs émotions deviennent plus contrôlées. Généralement, ils réussissent mieux. Je parle de personnes qui viennent à l'Église régulièrement, mais qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus encore, d'une façon personnelle. Donc, ils réussissent mieux généralement dans leur travail, dans leur propre vie. Ils sont emportés, ils ne sont plus, c'est-à-dire emportés ça et là, à tout vent. Hein? Éphésiens, Paul dit ceci, à cause de la confusion de la société moderne. Regardez bien dans Éphésiens 4, 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction. On ne serait plus ça. Mais Jésus parle, pas Jésus, mais Paul parle à des chrétiens nés de nouveau. Mais imaginez-vous quelqu'un qui aime l'Église, mais il aurait juste un pas à franchir. Et ça, c'est le Seigneur qui va le faire dans son cœur. Ce n'est pas en suivant des hommes que ça s'obtient, ça. Oui, on est responsable d'aller. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui sauve. Personne, par contre, certaines personnes du monde pensent souvent que fréquenter l'Église va nuire à leur vie, prendre trop de leur temps, hein, et ils n'auront plus le temps de consacrer leur temps aux études, à leur école, à leur travail. Certains parents d'enfants non chrétiens le pensent aussi. Ils pensent que venir à l'Église prend du temps, vole leur temps consacré à leurs études ou à leur travail, puis que les enfants ne réussiront pas plus. Mais l'exact opposé est vrai. Quand les jeunes assistent au service de l'Église, ils deviennent réellement de bien meilleurs étudiants. Parce que la Bible enseigne cette discipline-là d'être bien réglé, d'être bien contrôlé. Oui, il y a des enfants qui sont bien gentils. Je ne suis pas en train de faire une comparaison, mais habituellement, dans la vie de ces enfants-là, il y a une différence. Ils deviennent des meilleurs employés, ils deviennent des employés modèles quand ils travaillent, des meilleurs étudiants. Ils apprennent à mieux gérer leurs études en rachetant le temps. Paul dit dans Éphésiens 5, 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Le contexte, c'est sûr, c'est « Arrêtons d'attendre pour proclamer l'Évangile. » Mais c'est la même chose pour un jeune. Arrête de perdre ton temps à rien faire. Colossiens 4:5 dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Donc, par les encouragements des dirigeants d'Église, et c'est notre tâche de le faire, d'encourager nos jeunes. Et aussi, l'exemple que ces jeunes-là voient chez ses membres, bien, nos jeunes vont apprendre l'importance de ce qu'on appelle la diligence au travail et à l'école. Et au lieu de faire des sottises, il y en a des jeunes qui sont malheureux. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les années qui se passent, là. Mais il y a des jeunes qui se sentent seuls. Le taux de suicide est élevé, puis le taux de délinquance aussi est élevé. Mais à lieu de faire des sottises, c'est-à-dire comme le font les enfants du monde, eh bien, ils vont travailler, ils vont étudier durement pendant leur temps disponible. Et je crois, frères et sœurs, que nous avons dans notre Église ici, hein, plusieurs de nos étudiants, qui sont peut-être plus ici encore, mais il y en a encore ici, issus de parents chrétiens, donc qui ont fréquenté des collèges, qui ont fréquenté l'université, et qui ont bien réussi dans leurs études. Et je pense que c'est l'une des preuves que l'obéissance à Jésus purifie ceux qui lui obéissent. Ils sont libérés de nombreux problèmes auxquels doivent faire face ceux qui ne fréquentent pas souvent un endroit évangélique, une église, et qui n'assistent pas aux réunions. Et des années d'études et d'observations ont prouvé encore et encore que c'est le cas. Deuxième point, le plein salut est expérimenté quand on vient à Christ. 9 de ces 10 lépreux-là ont été satisfaits d'être guéris. Ils sont allés pour être guéris, ils sont retournés guéris. Mais ils ont été guéris extérieurement. Et lorsqu'ils ont été physiquement guéris de la lèpre, ils ne sont pas retournés. Ils ne sont pas retournés rendre grâce. Mais seulement un d'entre eux est allé. Lui, il n'a pas été seulement satisfait d'être guéri extérieurement, mais ce qu'il voulait, c'est que son cœur a sauté de joie en dedans de lui-même et il s'est exprimé en rendant gloire à Dieu, grâce à Dieu. Il a fait demi-tour, s'est retourné, retrouvé Christ, tombé à ses pieds, geste d'adoration, et à haute voix, il glorifiait Dieu. En d'autres termes, cet homme est venu à Christ. C'est ce qui se passe quand ceux qui sont nés de nouveau ici, quand on peut dire qu'on a connu le Seigneur Jésus d'une façon personnelle, c'est qu'on a tombé aux pieds de Jésus à cause de sa parole. On a entendu une parole. Moi, là, hein, dans Romains, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est mon dû, ça, c'est ma paye. La mort, l'enfer. Mais, gloire à Dieu, Jésus est venu. Et juste croire et obéir, c'est ce que la parole nous dit. Ne te demande pas de faire des chemins de croix. J'espère que tu as bien du bois, en tout cas. Toutes sortes de choses de moi. Il n'y a rien, il n'y a pas d'œuvre à faire. Il n'y a absolument rien d'autre que de croire, de se laisser aller. Hein? Prenez l'exemple, comme je vous dis tout le temps, un petit enfant là, de 1 an et demi, là, tu le mets à la table, là. Tu dis, saute d'un bras de papa. Il ne se pose pas de questions, il saute. Pourquoi? Parce qu'il a confiance. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Jésus. Ce lépreux-là, il est venu à Christ. Il a trouvé non simplement une guérison physique, mais un plein salut dans le Sauveur lorsqu'il est tombé à ses pieds. Et là, si tu fréquentes une église, là, puis tu viens régulièrement aux réunions, c'est une bonne chose. Moi, là, je vais t'encourager à continuer. Parce que ça va avoir, il va y avoir des bénédictions attachées à ça. Dieu connaît ton cœur. Il n'y a personne ici qui va juger quelqu'un, même si elle n'a pas connu le Seigneur Jésus, que si elle vient ici régulièrement, là. Amen. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça à la vie chrétienne que de simplement venir à l'Église pour avoir une vie meilleure. À un homme qui avait une vie réussie, Jésus a dit, « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Vous devez être né de nouveau. » Jean 3, 7, et il parlait à Nicodème. Un homme qui connaissait les Écritures, là, c'était un top. Il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est ce qui s'est passé pour le lépreux qui est retourné. Qui est revenu à Christ. Après qu'il a été physiquement guéri, purifié, par obéissance, il a oublié Jésus. Jésus dit, va te montrer. Il est revenu à lui. Il a dit à Jésus, il était content. Merci Seigneur. Il est tombé à ses pieds, il s'est converti de l'intérieur. Et puis Christ lui a dit après, ta foi t'a guéri. N'est-ce pas merveilleux, hein? D'avoir cette certitude-là dans le cœur que le petit pas de foi que j'ai fait m'a guéri de tous mes péchés. C'est Jésus qui a payé le prix. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui a pris ta place. C'est lui qui a dit « Tout est accompli ». Quand Jésus lui a dit « Ta foi t'a guéri », ce commentaire-là déclare que Jésus a non seulement voulu dire que son corps avait été guéri, mais que son esprit avait également été guéri. Il a reçu le salut. Et beaucoup de gens fréquentent notre église régulièrement. Et je ne connais pas les cœurs de personne, mais je crois que cela est bénissant pour vous. Ça vous aide. Et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Je rends grâce à Dieu pour tout cela. J'ai aucun jugement dans ma tête. Mais si tu ne connais pas le Seigneur d'une façon personnelle, si tu n'es pas né de nouveau, je te demande d'aller un peu plus loin. Un pas plus loin de recevoir le plein salut. La pleine conversion. En venant à Jésus-Christ par la foi, pas par des œuvres, et de combler, de tomber, c'est-à-dire à ses pieds, en lui faisant entièrement confiance. Amen. Après tout, Christ n'a pas souffert, il n'est pas mort sur la croix simplement pour nous donner une meilleure vie dans ce monde-là. Donc, la vie est courte ici. Hein. Même s'il y en a qui vivent 90 ans passés, la majorité meurt peut-être alentour de 75, 80. C'est pas long quand on compare ça à l'éternité. Donc, Jésus est mort sur la croix pour que nos péchés puissent être pardonnés, qu'on soit purifiés par son sang précieux. On l'a chanté tantôt. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Il est ressuscité, par contre. Ça, c'est encore une chose bien plus. Il est mort, oui. On aurait pu applaudir ça. Mais il est ressuscité d'entre les morts. Et là, maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Et il nous attend. Parce que le temps arrive bientôt où ce que l'enlèvement va arriver. Et tous ceux qui sont en Christ sauvés vont aller passer la vie éternelle avec Dieu. Si tu viens à Jésus par la foi, simple, comme l'a fait cet homme-là, tu es converti. Tu seras converti. Tu vas naître de nouveau. Et aujourd'hui même, c'est le temps, comme Hébreux dit, attendez pas, là. Aujourd'hui, c'est le temps. Parce que l'éternité est en jeu. Où tu vas aller? Quand tu vas me dire que l'enfer n'existe pas? Malheureusement, oui. Je ne connais pas l'état d'esprit de ton âme, mais Dieu le connaît. Je crois aussi qu'il y a cette troisième leçon-là dans ce passage des Écritures pour que chaque personne sauvée évangélise. L'Évangile, l'évangélisation est pour nous tous. Le troisième point, c'est que l'évangélisation devrait commencer immédiatement, aussitôt après votre conversion. Jésus a dit à ces 10 lépreux-là qui n'étaient pas encore purifiés jusqu'ici, donc non convertis, de aller vous montrer au prêtre. Et il arriva qu'en allant, ils furent rendus nets. Vous allez me dire, ouais, ben les non convertis, on ne peut pas les envoyer parce qu'il y a 9 de ces lépreux-là qui n'étaient pas convertis. Écoutez, encore une fois, on n'est pas là pour juger qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Je vais vous dire honnêtement, puis j'espère que ça ne vous étonne pas trop, je connais des personnes qui sont venues à l'Église, qui ont prétendu être sauvées, qui ont évangélisé, qui ont amené des âmes à Christ, puis pas longtemps après, sont retournées dans le monde. Dieu peut faire n'importe quoi. Dieu a utilisé ces 9 lépreux-là, non sauvés, pour témoigner de leur guérison. Mais leur témoignage de vie, l'intérieur n'avait pas été guéri. Peut-être qu'il y en a qui ont été guéris par après. Mais on ne sait pas, ce n'est pas raconté. Donc, ils ont été envoyés par Jésus comme des témoins, en témoignage aux prêtres et à d'autres juifs. Pourquoi? Pour parler de Jésus. Ils ont été envoyés comme des témoins avant qu'ils aient été purifiés. Je viens de vous expliquer pourquoi. Et avant même qu'ils témoignent, ils ont été envoyés. Moi, je prêche l'Évangile aujourd'hui. Il y en a peut-être que sont touchés par le message, ne connaissent pas, par contre, le Seigneur, et ils vont aller en parler. Gloire à Dieu. Jésus a dit, hein, il y en a, il y a tous les disciples, il y en a qui prêchent, ils ne sont pas de nous autres. Le Seigneur dit, c'est pas grave ça, en autant que la parole est prêchée. Aujourd'hui, la plupart des évangélistes pensent qu'on doit être des chrétiens forts, c'est-à-dire bien fondés dans la foi, avec beaucoup de connaissances bibliques, avant qu'on puisse aller sortir évangéliser. Ben, c'est un homme, ça, c'est faux. Rappelez-vous votre nouvelle naissance, comment vous étiez vif, vivant pour aller parler de l'Évangile, même si tu ne connaissais pas, tu connaissais juste un verset. C'est notre témoignage, souvent, qui va toucher le plus. C'est un non-sens de dire qu'il faut que tu fasses des études pour aller évangéliser. C'est aussi faux que de dire à quelqu'un qu'il doit être un chrétien fort pour qu'il puisse venir aux réunions de prière, de l'Église, c'est-à-dire. Autrement dit, tu dis ta Bible, dès que tu es prête, là, tu pourras venir le dimanche matin. Pas sûr que la Bible enseigne. Les 12 disciples ont été envoyés par Jésus immédiatement pour aller évangéliser. Et les disciples avaient été envoyés pour évangéliser la même année que Jésus les a appelés pour le suivre. Ils n'avaient pas eu une grosse formation.
Hein, il avait été ses disciples pour très peu de temps cette année-là. Regardez dans Marc. Il y a, je pense que je l'ai au tableau, hein, Jean, Marc 6, 7 et 12. Il commença à les envoyer deux par deux. Et ils partirent et prêchèrent qu'on devait se repentir. Pas loin, c'est pas dur, ça. Mais vous savez, dans ce groupe-là, là, il y avait un disciple qui s'appelle Judas. Il n'était pas converti. Pourtant, ils ont tous été envoyés pour évangéliser immédiatement. Fort dans la foi ou non, ils sont sortis pour évangéliser, suivant le commandement du Maître. Ça, c'est quelque chose à réfléchir. Suivant le commandement du Maître. Et je pense qu'on peut apprendre beaucoup de la façon dont Christ a travaillé sur la terre. Il n'a pas été longtemps, hein? 3 ans. À peu près. Sortir pour évangéliser, c'est un commandement de Christ. Un de ses commandements les plus connus dans la Bible. Allez donc et enseignez à toutes les nations. Matthieu 28, 19. Est-ce qu'on doit attendre d'être formé avant qu'on puisse aller évangéliser, avant qu'on puisse obéir à Jésus? Je pense pas. Les 10 lépreux, ils n'ont pas été formés pour aller enseigner, pour aller témoigner, c'est-à-dire de leur guérison devant les prêtres et les autres juifs. Non. Pourtant, Christ leur a dit d'aller puis de lui obéir. Allez vous montrer. Et lorsque les prêtres les verraient, ce serait un témoignage de leur guérison. Il n'a pas dit attendez d'être formé. Non, allez-y tout de suite. Les disciples étaient également des gens, j'ai eu le mot ignorant, mais ils n'étaient pas connaissants dans l'Ancien Testament. C'était des gens incultes, on peut dire. Mais Jésus les a envoyés deux par deux pour évangéliser. Et je crois que on doit faire la même chose aujourd'hui. Ce message-là, il s'applique à nous aujourd'hui. On doit suivre le modèle qui a été établi par Jésus. On doit donner une formation biblique. Oui, ça, enseignez-leur. Tout ce que je vous ai prescrit, ça fait partie du package. Mais, ils doivent commencer, en tout cas, quand tu es guéri, tu le dis à bien du monde, à évangéliser avant même qu'ils soient entièrement formés. Ils doivent aller évangéliser sans les doctrines de l'Écriture, la connaissance biblique. On peut former des personnes sans fin. Continuer à les former. Pourtant, on ne voit jamais une personne venir à Christ de leur témoignage. Ils sont formés au bout, mais ils n'ont pas de conversion. Il n'y a jamais personne qui est venu à l'Évangile à cause d'eux. Il n'y a jamais personne qui est venu entendre l'Évangile à l'Église, mais ils ont des connaissances. On peut donner aux gens des grandes explications sur l'Écriture, expliquer que la Bible, verset par verset, hein, sans les voir amener une âme perdue, entendre la prédication de l'Évangile dans nos cultes du dimanche matin. N'importe quelle personne qui réfléchit à cela, frères et sœurs, sait que c'est vrai. On doit l'admettre, là. On doit aller devant le Seigneur et dire, merci, je te demande pardon, Seigneur. J'ai pas obéi. Mais souvent, on est blasé et on chasse ça de notre idée le plus vite possible. Jésus nous dit que nous devons faire ce que nous devons faire, d'y aller évangéliser aussitôt possible, formé ou non. Et je crois que tout le monde dans notre Église doit aller évangéliser, doit parler du Seigneur. Je vais enlever le mot évangéliser, là. Doit parler du Seigneur, doit témoigner de sa foi. Créer une relation avec quelqu'un, puis ensuite de ça, prier que le Seigneur l'amène sur votre tapis. Et là, parler de lui. Des fois, ça peut prendre quelques semaines, mais il faut créer cette relation-là. Ça devrait être un acte qui est normal, un acte d'obéissance normale à Christ. Et je crois que cela s'adresse à toutes les personnes sauvées qui viennent à l'Église. Elles n'ont pas besoin d'en connaître beaucoup. Tout ce qu'elles doivent savoir, tout ce qu'elles doivent dire, par contre, c'est quelque chose de merveilleux. C'est produit dans ma vie et tu dois le savoir. Quelque chose d'aussi simple que ça. Je ne suis pas choqué, là. Je parle avec émotion. Ensuite de ça, n'oublions pas de prendre le numéro de téléphone. Combien de fois j'ai parlé du Seigneur à quelqu'un que j'ai oublié de prendre son numéro de téléphone? Comment tu veux que j'y retourne y parler? À moins d'être quelqu'un que je connais bien. On a beaucoup de visiteurs qui viennent, je ne dirais pas chaque dimanche, mais le dimanche. Bien, qu'est-ce qu'on attend pour suivre ce plan-là? Je pense que l'Évangile est prêché tous les dimanches ici, sous toutes les formes. Mais la prédication évangélique est rendue nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a probablement des personnes non sauvées qui assistent ici même à l'Église, à tous les services. Je reconnais que nous retournons à la manière sainte dont Jésus, je recommande, c'est-à-dire qu'on retourne à cette manière sainte de Jésus qui a envoyé ses disciples évangéliser dans le monde. Après tout, toutes les autres manières ne fonctionnent pas vraiment bien. Moi, j'ai pris des cours dessus, des formations, j'ai acheté des livres. On en parlait justement au conseil dimanche. Puis savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Il a été dit, commençons à prier premièrement pour les âmes perdues, puis ensuite de là, agissons. Il n'y a pas besoin de programme, il n'y a pas besoin de ci, il n'y a pas besoin de ça. Chacun, notre témoignage est important. 80% des hommes, des femmes qui sont sauvés, qui deviennent des chrétiens, ont été évangélisés par le bouche à oreille. Le docteur John Rice a dit très souvent, « Seulement un effort total peut être semblable au Nouveau Testament pour gagner des âmes. » Lisons la parole de Dieu. Lisons le Nouveau Testament. Regardons ce qu'ils ont fait. Et une chose de plus, les gens se développent en Christ quand ils sont envoyés pour l'évangélisation. Laissez-moi vous dire, vous allez en lire des versets, vous allez en lire dans votre parole parce que vous savez que demain matin, vous rencontrez quelqu'un. Vous allez grandir dans le Seigneur. Vous allez devenir plus fort dans votre foi. Les gens peuvent dire, peuvent rester à stagner pendant des années s'ils n'évangélisent pas. Là, je termine en disant, mais je sais par expérience que les gens qui évangélisent deviennent rapidement des chrétiens forts. C'est la clé de la croissance chrétienne, mes frères et mes sœurs, et aussi de l'obéissance au grand envoi. Luc 17, 14 dit, « Et il arriva qu'en s'en allant, il fut rendu net. » Frères et sœurs, notre vie va changer dès qu'on va aller faire des disciples de toutes les nations, de toute la ville de Hawkesbury, évangéliser partout, Hawkesbury et ses environs. Que Dieu, il faut prier pour ça, que Dieu puisse accorder cette nouvelle naissance-là à tous ceux qui viendront à Christ par la foi. Ça devrait être notre prière. On va obéir ainsi au grand commandement du Seigneur, hein, en évangélisant partout. Regardez Matthieu 28, allez faire de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur, là vient un peu la connaissance, à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, y croyez-vous? Et je termine avec ce verset, afin que Dieu puisse nous inspirer de nous investir dans l'évangélisation et faire aussitôt que possible, 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Vous allez rencontrer des gens qui vont dire « c'est pas vrai la fin du monde, ça, il n'y aura pas de fin, c'est pas vrai ». Parce que ces gens-là disent, bien, ça fait longtemps, ça fait... Oui, mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Merci, Père du ciel, pour cet encouragement-là dans... Le fait que ce lépreux-là qui est tourné, eh bien, il a reconnu, Seigneur, sa guérison extérieure, mais surtout celle intérieure. C'est le message qu'on veut apporter à tout le monde qui nous fréquente, au monde entier. Qu'on puisse t'obéir, Seigneur. Commençons par prier. Que le Seigneur nous donne cette force-là, ce courage-là. Oui, il va y avoir des noms. Oui, il va y avoir des gens qui vont peut-être se moquer de nous. C'est normal. Ils ont crucifié ton Fils. Alors, Seigneur, bénis notre semaine. Que cette parole que tu nous enseignes ce matin puisse germer dans notre cœur et devenir une croissance pour notre vie. En Jésus, on prie. Amen.